Donc pour finir cette session de petite conférence, donc je vais essayer de faire parler un petit peu du lien qui pourrait y avoir entre le cycle du carbone et les grands processus orogéniques, et en particulier ce qui est mon objet d'étude, c'est la chaîne himalayenne. Alors moi je travaille plus sur les aspects tectoniques des formations de la chaîne himalayenne, mais j'essaie de vous montrer en quoi on peut relier certains de ces processus plutôt internes à une dynamique externe. Alors, pour commencer, je vais partir d'une courbe que vous connaissez bien, alors pas nécessairement cette courbe-là, qui est la courbe de reconstituée de l'évolution de la température au cours du Phanérozoïque, donc qui est basée sur des mesures du delta O18 dans des carbonates qui sont après utilisées pour déterminer la température globale. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Chaque petit point est une donnée. Mais si on fait passer une courbe moyenne, on peut reconstituer des variations sur des grandes échelles de temps de la température avec des amplitudes qui vont jusqu'à des températures très élevées à l'ordovicien, près de 50 degrés, jusqu'à des températures minimales qui vont aux alentours de 15 degrés pour la fin du carbonifère. Donc on a des amplitudes assez fortes. Et un des grands enjeux de cette courbe, c'est d'être capable de reconstituer les forçages, les facteurs qui vont contrôler ce type d'évolution. Alors, ce n'est pas facile de savoir exactement quels sont les facteurs, et une des approches, c'est simplement d'essayer de corréler avec d'autres processus qui ont des échelles de temps similaires. Et en particulier, il y a, si on regarde les âges de certains grands cycles orogéniques, comme la fin du cycle calédonien, hercynien ou alpin, eh bien, on voit que ces grands cycles orogéniques ont l'air d'être associés à des phases de refroidissement significatives, du moins de grande amplitude. Là, on voit la fin du calédonien ici avec ce grand refroidissement, le cycle hercynien avec le refroidissement à la fin du carbonifère, et dans une moindre mesure, le cycle alpin semblerait aussi être associé à un petit refroidissement, mais qui est quand même de moins grande amplitude que les précédents. Donc là, c'est juste une corrélation, c'est une observation, de dire tiens, on pourrait imaginer qu'il y a un lien entre les deux, et ça justifie un petit peu de s'y intéresser. Ça ne donne pas une relation, mais ça justifie de se poser la question de la potentielle relation entre ces processus-là. Si on zoome sur l'exemple que je vais détailler aujourd'hui, hein, qui est celui de la formation de l'Himalaya, donc là à nouveau la courbe de reconstitution de la température ici des océans profonds, donc avec le delta O18 de foraminifères benthiques, donc qui donne des bonnes indications sur ces compositions, ces températures de l'océan. Et on peut mettre en relation avec la dynamique de la convergence Indasie, reconstituée avec la vitesse de convergence en millimètres par an entre l'Inde et en supposant l'Asie fixe. Donc on a ici un ralentissement de la vitesse de convergence qui est interprété comme la transition entre les phases plutôt de subduction où la convergence est contrôlée par la subduction océanique, donc qui entraîne avec elle la subduction forcée d'une partie de la croûte indienne, et puis la phase d'épaississement crustal où la convergence ralentit plus fortement puisqu'on a perdu le moteur de la subduction océanique au départ. Et donc là, en fait, il semblerait que donc au moment de cette phase d'épaississement crustal, qui est vraiment la phase de formation du relief himalayen, eh bien, ça concorde avec le début du refroidissement de quelques degrés, hein, puisqu'on est là ici pour l'océan moyen, de environ 5 degrés à des températures proches de 1 degré actuellement. Donc là, à nouveau, une corrélation entre les deux qui suggère qu'il puisse y avoir un lien entre la dynamique orogénique et ce léger refroidissement de quelques degrés depuis environ 50 millions d'années. Donc pour aller plus loin, pour rajouter un autre niveau d'information, c'est qui a priori va être lié à cette température, c'est le cycle du carbone. Donc là, on utilise d'autres proxys, en particulier les densités stomatiques, par exemple, ou certaines données chimiques comme des isotopes du bore. Et on peut ainsi, là, la reconstitution est assez bonne, hein, surtout quand on est à moins de 20 millions d'années dans le Miocène. Eh bien, on a effectivement, en termes de pression de CO2 atmosphérique, donc ici, on voit que progressivement, là, on a une baisse de la pression en carbone atmosphérique qui peut être facilement expliquée, cette baisse de température, simplement avec une diminution de l'effet de serre. Donc, vraiment en prenant au premier ordre l'effet du carbone sans prendre en compte les échanges avec l'océan. Donc là, le lien, en fait, finalement, on ne va pas regarder les températures directement. Ce qui paraît plus pertinent d'aller chercher, c'est les éventuelles interactions entre la dynamique orogénique et le cycle du carbone, le fait que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut trouver des mécanismes qui expliqueraient que la formation de l'Himalaya puisse constituer un puits à carbone. Alors pour savoir dans quelle direction chercher dans tout ce qui se passe en Himalaya, c'est quand même assez riche, on va rajouter encore un autre niveau qui permet de faire des corrélations, c'est la composition isotopique en strontium de l'eau de mer. Donc le rapport strontium-87 sur strontium-86. Alors strontium-87 sur 86, vous voyez souvent en radiochronologie hein, pour les datations RBSR. Alors là, on est vraiment dans une autre utilisation, c'est utiliser les rapports isotopiques pour déterminer une source, la nature des sources. Et ce que l'on voit, c'est qu'au cours du temps, on a d'abord quelque chose de relativement stable aux alentours de 0,7075. Et puis ce rapport isotopique, il va augmenter au cours du temps, en parallèle avec le ralentissement de la convergence indazie, donc au moment de la formation de la haute chaîne. Et cette augmentation du rapport isotopique, il est interprété comme une sorte de pollution finalement de notre océan par des fluides enrichis en strontium qui viennent de l'érosion et de l'altération des continents, puisque les continents vont avoir des rapports isotopiques. La croûte continentale, les granites hein, d'origine continentale vont avoir des rapports isotopiques strontium sur 87 sur 86 qui vont se rapprocher de 0,71, hein, qui est la valeur classique d'une croûte continentale. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est finalement une augmentation d'un flux de matière, là, sous forme de rapports isotopiques, qui viendrait du continent et se fait en parallèle avec la formation de la chaîne himalayenne. Donc on va plutôt aller chercher dans cette direction de transfert qui est assez intéressant puisque là on part de processus qui sont internes et avec ce transfert bah finalement on voit des roches qui sont formées dans le processus orogénique qui sont donc des roches qui viennent du cycle interne de la Terre qui vont passer dans des enveloppes externes, en particulier les océans. Et donc là on pourrait avoir le lien plus facilement avec ce qui se passe dans l'atmosphère avec la paix de CO2. Donc ces processus de transfert, bah, ils se voient bien à l'échelle très régionale sur la chaîne. Donc là, on est en plein cœur de la chaîne himalayenne. On a des sommets ici qui sont supérieurs à 7000 mètres. On voit des indices d'érosion importants avec des gros blocs là qui sont liés à des glissements de terrain principalement, des dépôts moréniques ici dans les vallées. Puis bon, la morphologie nécessite qu'une grande partie de la matière ait été enlevée par des processus érosifs. Donc localement, on a une érosion relativement importante de la chaîne. Si on essaye d'ouvrir un petit peu pour voir de façon un petit peu plus large, bien, si on élargit sur notre chaîne, et en particulier si on va en avant de notre chaîne himalayenne, et bon, on a une grande zone de dépôt de produits d'érosion, hein, qui est la plaine indo-gangétique, avec ici des galets, puis par endroits, on a des zones un petit peu plus sableuses ou argileuses. Donc on a toute une série de produits de l'érosion de la chaîne qui sont transportés et qui se redéposent au front. Et si on compile avec en particulier les données de sismologie obtenues lors des investigations des pétroliers, eh bien on peut mettre en évidence que dans cette plaine indo-gangétique, on peut localement avoir près de 7 à 8 km d'épaississement, d'empilement de sédiments, donc dans ce qui constitue un bassin d'avant-chaîne, en fait, un bassin flexural équivalent au bassin molassique suisse. Donc déjà, on a une grande quantité de la chaîne finalement qui a été érodée et qui se retrouve piégée dans des sédiments de zones d'avant-pays. Ça, c'est ce qu'on voit actuellement. Et si on regarde maintenant, si on revient dans la chaîne, on se rend compte que la première unité de la chaîne himalayenne, ce qui s'appelle le bas-Himalaya, eh bien le bas-Himalaya, on voit ici des strates qui sont un petit peu basculées. Et si on zoome sur ces strates, eh bien on retrouve des conglomérats, des grès, des argiles. Donc en fait, le bas-Himalaya, c'est l'ancienne plaine du Gange qui s'est fait incorporer dans la chaîne himalayenne. Donc ça veut dire que si on veut regarder le bilan d'érosion de la chaîne himalayenne, il faut regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Mais en fait, une partie de son érosion a été réintégrée dans la chaîne himalayenne. Donc ça ajoute des quantités très importantes. Là, on est sur une sédimentation qui a duré pendant, on a à peu près 5 millions d'années d'empilement de matière, ce qui est à peu près l'âge aussi de la plaine indo-gangétique actuelle. Donc il y a la formation des bassins flexuraux, il y a au moins 10 millions d'années d'empilement de matière au front de la chaîne. Et puis si on va encore plus loin, parce que tout n'est pas piégé dans ces bassins qui sont ici, là vous avez une reconstitution des épaisseurs de sédiments détritiques qui sont pris en charge par les grandes rivières qui drainent l'Himalaya et le plateau du Tibet, donc en particulier le Gange et le Brahmapoutre qui se jettent dans le golfe du Bengale, l'Indus de l'autre côté. Eh bien, toujours pareil avec des données de sismique et de forage, on peut mettre en évidence des grandes quantités d'épaisseur de sédiments. Alors, bien évidemment, c'est des sédiments plus fins, c'est ce qui est transporté un petit peu plus loin. Et on a des sables, des argiles avec localement plus de 12 km d'épaississement de quantité de sédiments. Donc, on a des volumes énormes de sédiments qui sont empilés dans ces cônes détritiques sous-marins. Et si on peut faire le bilan de la quantité de sédiments qui est accumulée en calculant des flux sédimentaires au cours du temps. Et on voit que bah, depuis 50-60 millions d'années, donc qui correspond au début de la formation de l'Himalaya, donc on a des flux qui sont assez faibles. Alors ça, c'est pour toutes les rivières hein, qui drainent l'Himalaya et le Tibet. Et puis on voit cette très forte augmentation des flux sédimentaires. Donc ça veut dire que l'érosion de la chaîne himalayenne augmente très fortement, enfin du moins de cette zone-là, très forte érosion avec un transfert important de matière relativement loin, et puis après on voit des choses un peu plus particulières avec une baisse de l'intensité de l'érosion et une reprise plus actuelle. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc là on a ce flux de matière solide qui est extrêmement important, donc qui évacue finalement une partie de la chaîne et qui va permettre de faire ressortir des roches de plus en plus profondes au niveau de notre chaîne Himalaya. Donc ça c'est ce qui est solide. Et si on continue à s'intéresser à ces rivières, donc en particulier si on regarde le système du Gange, éventuellement du Brahmapoutre, on peut regarder la composition chimique des rivières et on se rend compte qu'il y a toute une série d'éléments dissous hein, qui sont aussi transportés. En particulier, là dans ce diagramme, on regarde les proportions relatives en calcium, magnésium, sodium, potassium. On peut comparer avec, par exemple, toutes les rivières ici qui sont au sud du Gange, donc qui drainent plutôt l'Inde continentale. Et on a des fluides qui sont souvent très riches en calcium. Alors, ce n'est pas les rivières les plus riches en calcium, parce que c'est très dépendant de la nature des roches que vont rencontrer ces rivières-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de calcium. Il y a aussi beaucoup de HCO3 qui est présent, mais bon, pas nécessairement beaucoup plus que dans les rivières non himalayennes. Il y a un peu de chlore, un peu de SO4. Donc il y a une composition chimique assez riche de ces fluides qui montre bien que bah, ce n'est pas juste de l'eau de pluie, mais que la traversée de la chaîne himalayenne, en plus d'entraîner un apport de matière solide, bah, entraîne aussi un transfert de matière dissoute. Et l'origine de cette matière dissoute, bah, elle est assez simple, on la voit sur le terrain. On a en particulier quand on est dans les zones assez basses de l'Himalaya, alors assez basse c'est relatif, hein, on dirait à moins de 3000 mètres, on a beaucoup de végétation et associé à ces végétations, on a des sols très très épais qui sont des sols d'origine granitique avec beaucoup d'argile, de la kaolinite en particulier. Donc on a une hydrolyse très importante de nos granites. Après, quand on va un peu plus haut dans la chaîne, on retrouve nos granites. L'altération est moins poussée parce qu'il fait un petit peu plus froid. Donc on a éventuellement un peu d'arénisation, pas mal de fracturation. Mais on retrouve quand même une petite altération de nos roches. Et donc bon, ça, c'est des réactions très classiques hein, avec des réactions d'altération de carbonate qui, au premier ordre, vont pomper du CO2 hein, pour former le Cl2+ et le HCO3- qu'on retrouve de façon dissoute dans nos rivières. Et puis, nos silicates, comme par exemple de l'anorthite, là, qui est commune dans les granites, qui vont pomper aussi du CO2 et à nouveau donner du calcium, des ions HCO3- et puis un résidu solide. Donc là, on a une dissolution incomplète. Et puis là, on a une hydrolyse avec un résidu solide qui est notre argile, notre kaolinite. Donc on a ces processus et on voit tout de suite que ces processus dont on voit qu'on peut reconnaître directement sur le terrain sont des processus qui vont effectivement consommer du CO2. Alors ça, je dirais, c'est le départ de la réaction. C'est ce qui a été mis en place par Raimo dans les années 90, qui a défini ce qui a été appelé, ce que je pense que vous connaissez, le monde de Raimo, qui est cette vision de l'altération des carbonates et des silicates comme étant un facteur majeur de piégeage du CO2 par ces réactions d'altération. Et si on fait le trajet en entier, donc là, pareil, donc des choses assez classiques. Eh bien, ces éléments dissous vont être transportés sous forme dissoute dans nos rivières, arriver dans la mer. Et là, donc, dans ce système qui est sursaturé en HCO3- et en calcium, bah, dès qu'on ramène un petit peu de calcium et d'HCO3-, eh bien, il va y avoir une reprécipitation qui va consommer, pour le coup, une partie à nouveau du CO2. Donc là, on a une consommation du CO2. Donc, si on fait le bilan, donc, de façon. Donc là, je reprends des choses très simples, hein, classiques. Si on fait le bilan sur les carbonates, bah, finalement, le CO2 qui a été initialement utilisé, pompé pour la dissolution, va être libéré un petit peu plus loin dans les océans. Donc, À l'échelle de temps de l'équilibre entre les processus d'altération et les processus de précipitation, c'est-à-dire entre 100 000 ans et 1 million d'années, c'est quelque chose qui est équilibré. Donc sur l'échelle d'une chaîne de montagne, l'altération des carbonates, c'est neutre. Par contre, si on réfléchit sur des processus d'échelle courte, des choses qui durent moins d'un million d'années, l'altération des carbonates est un piège à CO2, mais pas sur les échelles de temps qui nous intéressent ici. Par contre, les silicates, eux, les deux CO2 qui sont piégés, il n'y en a qu'un des deux finalement qui est libéré lors de la précipitation des carbonates. Donc le bilan, c'est que la moitié des CO2, donc la moitié du flux de CO2 par les rivières, participe, retransmet au piège du CO2. Donc une moitié de ce qui est produit par l'altération des silicates, du flux d'altération des silicates, est piégé sous forme de CaCO3. Donc là, on a un vrai puits, un puits à carbone. Donc ça, c'est des choses assez classiques, assez anciennes. Alors, le problème derrière, c'est d'arriver à quantifier ce flux pour savoir finalement combien de carbone peut être effectivement piégé dans une chaîne comme l'Himalaya. Alors l'approche, elle est assez simple, hein. On prend un bassin versant, un point de référence de ce bassin versant au niveau duquel on va mesurer la concentration en éléments dissous, en calcium, en SO3-, éventuellement SO4-. Pour savoir vraiment là-dedans ce qui va être lié à l'altération des silicates et pas des carbonates, eh bien on va regarder la lithologie des types de roches dans le bassin versant pour voir la proportion entre les carbonates et les silicates. Donc pour essayer quelque part de ne retrouver finalement que le Ca2+ ou l'HCO3- lié à l'altération des silicates et pas avoir celui qui est lié à l'altération des carbonates. Alors le SO4-, est aussi important parce qu'il joue sur l'altération des carbonates de façon différente que la réaction que je vous ai présentée tout à l'heure, donc on en reparlera. Mais donc voilà, avec ces corrections-là, on corrige aussi des échanges avec l'atmosphère. On peut arriver à identifier, à distinguer la concentration de nos rivières qui est liée à l'altération des silicates. Et donc, si on connaît notre débit, eh ben, on va calculer un flux de ces éléments dissous qu'on va pouvoir ramener à la surface du bassin versant. Donc, on va avoir un flux par unité de surface de notre bassin versant. Donc là, on peut le calculer sur le Gange-Brahmapoutre et après, on extrapole à toute la surface de la chaîne himalayenne. Ou si on peut, à défaut, mesurer toutes les rivières qui drainent l'Himalaya. Mais là, l'avantage, c'est qu'on va considérer finalement qu'une rivière comme le Gange ou le Brahmapoutre va être représentative de l'ensemble des rivières himalayennes, comme elles sont à peu près toutes dans les mêmes conditions. Donc on va pouvoir, une fois qu'on a notre flux par unité de surface, le transposer à l'ensemble de la chaîne. Donc si on regarde le flux qui est transféré et la partie qui va effectivement, en enlevant finalement la partie qui est perdue, qui est relibérée par la précipitation des carbonates, le flux net qui prend en compte l'altération et la précipitation, on est de l'ordre de 0,8 mégatonnes de carbone par an qui est piégée. Donc c'est vraiment la partie piégée nette. En fait, c'est la moitié du transport. La moitié de ce qui est transporté est effectivement piégée. Donc ça, cette estimation-là, c'est en particulier ce qui a été estimé à partir des études sur le Gange et le Brahmapoutre. Donc là, on a un premier puits à carbone qui, après, il va falloir quantifier pour voir quel peut être son impact. Alors bien évidemment, il n'y a pas que l'Himalaya qui fait ce processus-là. On va retrouver la même chose au niveau de l'Amazone, où on a des flux qui sont à peu près équivalents. Donc ça, c'est l'approche classique qui était mise en avant jusqu'au début des années 2000. Et puis après, on a rajouté quelque chose qui est assez évident de fait, mais qu'on avait un peu de mal à quantifier, c'est que sur les échantillons qu'on va retrouver dans les zones en avant de la chaîne, bah, on trouve souvent du charbon. Donc là, c'est un petit grès avec un petit niveau charbonneux ici. Alors, bon, il y a un petit peu de charbon, un peu de matière organique. Et puis, on peut trouver des veines de charbon un petit peu plus conséquentes, voire des affleurements de charbon avec des alternances gréseuses. Donc ça, c'est assez classique de ces grandes plaines d'inondation où on a des alternances. Alors pour ceux qui ont fait la sortie de terrain à la Ricamarie, bah, c'est exactement les mêmes formations que l'on trouve dans le bassin de Saint-Étienne, c'est-à-dire des plaines d'inondation avec des petits chenaux gréseux là, qui vont se déplacer au cours du temps. Donc on a toute une série de niveaux riches en matière organique, donc des choses qui viennent du cycle biologique du carbone, un cycle qui est normalement un cycle court terme, et qui se retrouvent dans les roches, en partie qui commencent à être dégradées en matière organique, voire jusqu'à de la graphitisation. Donc là, on a du piégeage de matière organique qui est transféré du cycle biologique vers le cycle géologique du carbone. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les bassins carbonifères, péri et intra-hercyniens. Alors si on veut essayer de voir quel est le volume, parce que c'est difficile, on ne va pas mesurer tous les charbons qui peuvent exister, puis c'est difficile d'avoir accès à ça. L'idée, c'est d'essayer de s'intéresser au flux actuel de cette matière organique qui vient d'Himalaya. Et pour ça, on va revenir aux rivières. Donc, quand on regarde les rivières himalayennes, la plupart du temps, ce n'est pas des belles rivières d'eau bleue et cristalline, c'est des eaux boueuses, très sales, parce qu'elles sont une charge solide, pour le coup, de matière organique qui est relativement importante. On connaît toutes les images des gens qui se baignent dans le Gange. Alors, en plus de la pollution anthropique, il y a aussi beaucoup de matière organique qui est sous forme solide, donc en suspension dans ces rivières. Donc là, j'ai mis des mesures qui ont été faites le long des principales grandes rivières de l'est de l'Himalaya, donc le Gange, le Brahmapoutre. Donc on peut mesurer comme ça la charge en suspension et on voit que cette charge, elle varie en fonction de la profondeur. Donc là, on peut estimer la quantité de matière organique qui est transportée sous forme suspendue par ces grandes rivières en intégrant sur la profondeur, donc en prenant en compte le fait que ça diminue avec la profondeur. Donc ça s'appelle le TOC, le Total Organic Carbon, donc le carbone organique total, donc en suspension à l'intérieur des rivières. Donc ça, c'est une première chose. Déjà, on voit le flux, ce qui arrive. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui, dans ce flux, va être piégé dans les sédiments. Parce qu'une partie de ce flux, éventuellement, ce carbone peut très bien être oxydé par l'activité biologique et revenir dans le cycle biologique du carbone. Donc là, dans ce cas-là, l'impact climatique, l'impact sur les températures, il est nul. Donc, pour faire ça, ce qui a été utilisé, c'est de comparer les compositions de ces eaux en carbone organique avec ce qu'on retrouve dans les sédiments où ce carbone peut être piégé. Et donc là, les gens qui ont fait ces études-là sont retournés voir les sédiments détritiques des grands cônes alluviaux. Et ce qu'ils ont mis en évidence, donc là, il y a en vert, vous avez les rivières, en bleu, ce qui a été mesuré dans le cône du Bengale, donc notre carbone organique total en suspension. Et avec un rapport entre aluminium et silicium, en fait, qui est lié aux minéraux qui vont adhérer, qui vont être associés au carbone. Donc, en fait, ça permet de voir quels sont les éléments ou les minéraux qui vont fixer ce carbone. Donc, si quand le rapport est très riche en silicium, c'est plutôt du carbone qui va être associé à du quartz. Quand c'est le pôle aluminium qui domine, c'est plutôt associé à des silicates. Et donc ce rapport permet de voir finalement sous quelle forme le carbone organique est dans nos rivières. Donc on voit qu'il y a une relation linéaire entre les deux. Donc il y a vraiment une relation entre cette charge suspendue, dirais minérale, et la charge suspendue de carbone organique. Et on retrouve exactement la même dans le golfe du Bengale. Donc en fait, la structure de l'association entre le carbone dans les rivières est exactement la même que celle dans le cône du Bengale. Ce qui veut dire finalement qu'ils n'ont pas été séparés. C'est-à-dire, si on avait une activité biologique qui avait pris une partie du carbone, eh bien, finalement, ce rapport aurait été modifié entre les cônes et les rivières. Donc, l'interprétation qui est faite de ce type de relation, c'est de dire que, dans le cas du col du Bengale, ce n'est pas nécessairement vrai pour toutes les rivières du monde, mais dans ce cas-là, on considère qu'il y a quasiment 100% d'export. C'est-à-dire, tout le carbone qui est dans les rivières, il est piégé dans les sédiments. Dans l'actuel, il n'y a quasiment pas de carbone qui va être repris par l'activité biologique, qui va être recyclé par l'activité biologique. Donc ça, quelque part, c'est un avantage. Ça veut dire que maintenant, pour savoir quel est le flux de ce puits de carbone, il suffit de mesurer le flux de carbone dans les rivières, de carbone d'origine organique. Alors pour être sûr qu'il est d'origine organique, on peut regarder les isotopes du carbone, puisque le carbone d'origine organique, il est plus riche en carbone 14 que le carbone inorganique. Parce que dans le carbone inorganique, le carbone 14, il s'est totalement désintégré. Donc on peut aussi utiliser ça pour vraiment distinguer le carbone organique du carbone d'origine géologique. Donc si on synthétise ça dans un petit schéma, donc vous avez ce qui est important, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le flux détritique qui va amener les particules solides. Donc ça, on est toujours dans une dynamique liée à la géologie. La biosphère va être une source de carbone organique avec des débris de feuilles, de végétaux divers et variés, qui vont se retrouver mélangés dans la charge en suspension avec une partie du flux détritique. Ce carbone organique va s'associer, se coller aux particules détritiques, être transporté par les rivières. Une partie va être sédimentée dans les sédiments de la plaine du Gange, donc dans les grès, les carbonates. Donc là, ça forme les niveaux de charbon que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, une bonne partie va passer dans les cônes détritiques, dans les rivières. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, que ce soit sur la plaine du Gange ou dans les cônes détritiques, mais on considère que 100% de la charge qu'on retrouve dans les rivières, en carbone organique en suspension, est entièrement piégée dans des sédiments. Donc si on essaye de quantifier avec à peu près les mêmes types de calculs que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'altération des silicates, eh bien on est de l'ordre de 5 à 10 mégatonnes de carbone par an, donc c'est quasiment un facteur 10 par rapport au piégeage par l'altération des silicates. Donc c'est a priori un processus qui est beaucoup plus efficace pour piéger le carbone que l'altération des silicates, dans le cas du Gange et du Brahmapoutre. Donc là, je vous ai montré les deux grands puits à carbone, à chaque fois qu'ils sont liés au même processus, puisqu'au départ, on a les processus d'altération et d'érosion qui sont nécessaires pour avoir ces deux facteurs de piégeage. Alors, pour être complet, l'altération et l'érosion, ce n'est pas uniquement un puits à carbone, mais ça peut être aussi une source de carbone. Alors, la première source de carbone qu'on peut voir, c'est, je dirais, le processus inverse de celui qu'on a vu, c'est-à-dire c'est du carbone qui est d'origine pétrologique, qu'on retrouve dans par exemple, des schistes noirs, des schistes charbonneux, sous forme souvent de graphite. Donc ce graphite, il va pouvoir être oxydé à la surface, et donc là, l'oxydation du graphite va relibérer du carbone, donc va faire passer du carbone qui est dans le cycle long géologique du carbone, dans le cycle court biologique du carbone, via le passage à l'atmosphère. Donc ça va bien évidemment dépendre de la nature des roches qu'on va retrouver dans les bassins versants, s'il y a beaucoup de ces schistes riches en matière organique. Et là, à nouveau, pour savoir la proportion de ce carbone qu'on va retrouver sous forme suspendue dans les rivières, eh bien, c'est à nouveau avec les isotopes. C'est-à-dire pour distinguer ce carbone qu'on retrouve dans les rivières, qui est une signature qui veut dire que là, il y a eu un processus qui a libéré du CO2, de celui qu'on retrouve qui est d'origine biologique, là, qui va être associé à un processus qui va piéger du CO2, eh ben, on va regarder les isotopes du carbone. Puisque là, on est sur du carbone très très vieux, donc il n'y a plus de carbone 14 dedans. Donc en faisant les isotopes des carbones et les rapports entre carbone 14, carbone 12, carbone 14 et carbone 13, eh bien là, on peut déterminer quelle partie de. En fait, on fait un mélange entre un pôle qui serait un pôle de carbone géologique, sans carbone 14, et un pôle biologique où là on aurait des carbones très riches en carbone 14. Et donc en faisant la proportion entre les deux, on peut savoir quelle est la proportion de carbone organique et de carbone non organique. Autre processus qui va être aussi une source de carbone liée à l'érosion, alors c'est un élément chimique dont je vous ai déjà parlé, hein, qu'on retrouve sous forme dissoute, là on revient au processus de dissolution, qui est le SO4-, donc qui va être associé à l'hydrogène pour faire de l'acide sulfurique. Donc là, on a des mesures qui sont faites sur des rivières. On compare le ratio entre le SO4-, et la somme d'un certain nombre de cations à celle du calcium sur d'autres cations. Donc on a des teneurs en SO4-, qui sont parfois relativement élevées. Et pour avoir ces valeurs riches en SO4-, pour ces valeurs de calcium dans les rivières, eh bien, il faut que le calcium ici proviennent de l'altération de la calcite via la production d'acide sulfurique par l'altération des pyrites. Donc, alors c'est un coup de billard à trois bandes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'altération des carbonates classiques par le CO2, donc qui est plutôt un processus neutre sur les échéances de centaines à millions d'années, eh bien là, on a une altération des carbonates qui se fait par l'acide sulfurique. Donc, je vais vous montrer l'équation. Donc la première étape, c'est qu'il faut produire de l'acide sulfurique. Donc pour ça, il faut avoir une source de soufre, et en particulier l'altération, donc l'oxydation ici de pyrite en présence d'eau va vous donner de l'hématite et cet acide sulfurique. Et cet acide sulfurique, il peut réagir avec CaCO3 pour libérer du CO2. Donc là, on a une réaction de libération de CO2 qui ne fait pas intervenir le CO2 de l'atmosphère. Alors ça produit du SO4-, et du Ca2+. Donc là, sur cette réaction-là, ça va libérer du CO2. Après, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que le SO4-, dans les océans, va pouvoir aussi réagir avec le CO2, et il va y avoir des réactions qui vont éventuellement piéger un petit peu de CO2. Mais c'est sur des échelles de temps qui sont très longues. C'est plutôt des échelles de temps de la dizaine de millions d'années. Donc c'est un petit peu plus long. Et donc là, dans ce cas-là, sur l'échelle de la dynamique orogénique, on considère que globalement, cette réaction-là, donc d'altération des carbonates par l'acide sulfurique, c'est plutôt un processus qui va libérer du CO2. Et donc là, bah, pour savoir quelle est l'importance de ce processus-là, bah, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on regardait le SO4 de moins. Bah, en fait, on va regarder voilà, la concentration en SO4 de moins, donc, qui est libérée par cette réaction-là. Et la mesure de ce SO4 de moins va permettre de revenir à la quantité de carbonates qui ont été dissous par cette réaction et donc de savoir, d'estimer le flux de CO2 lié à ces processus-là. Donc, je vous montre un petit bilan de ces processus, justement, qui a été fait très localement au niveau du Népal. Donc, c'est une étude sur un tout petit bassin, un petit bassin versant. Donc, on a pu assez bien contraindre un certain nombre de choses. Alors, les flux ne sont pas dans les mêmes unités que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, puisque là, on est sur une surface donnée. Donc, ce sont des flux en moles de carbone, donc milliers de moles de carbone en kilomètres carrés par année. Donc ici, vous avez les flux qui sont liés à des processus qui sont plutôt des processus de libération du carbone, donc l'altération par l'acide sulfurique des carbonates et l'oxydation du carbone géologique, pétrologique, en particulier des schistes noirs d'anciens charbons. Donc ça, ce sont les processus qui libèrent du carbone. Et donc en parallèle, vous avez les processus qui vont piéger du carbone. L'altération des silicates, donc vous voyez qu'elle n'est pas très importante dans ce bassin versant-là, et puis surtout le piégeage, le transfert du carbone organique dans les sédiments, donc l'export du carbone organique dans les sédiments. Et donc le bilan entre ces quatre facteurs qui sont tous liés à l'érosion et à l'altération, c'est qu'on a globalement un puits de carbone relativement important. Donc ici, alors les deux valeurs, hein, c'est en fonction de si on regarde cette échelle-là, ici. Qui est le taux en tonnes de carbone par rapport à celui qui est mesuré en moles de carbone. C'est exactement les mêmes approches. Donc on a globalement un puits de carbone. Donc si on regarde un peu plus généralement sur l'Himalaya, donc on avait nos deux puits de carbone qui faisaient aux alentours de 6 à 11 mégatonnes de carbone. Et si on prend nos deux sources de carbone, on est de l'ordre de 2 mégatonnes de carbone par an. Donc on a quand même globalement quelque chose qui ressemble à, qui est, d'un point de vue bilan, semble être un puits de carbone relativement important. Donc maintenant, si on essaye de généraliser un petit peu ces processus érosifs pour essayer de voir ce qui peut se passer dans d'autres systèmes et dans d'autres conditions, essayer de voir finalement quels sont les facteurs qui vont favoriser ou rendre plus compliqués ces processus qui vont être des puits ou des sources. Donc là, je vous montre un schéma de synthèse qui peut paraître un peu complexe. On va le prendre par étapes. Donc, les facteurs qui vont pouvoir jouer sur ces conditions d'érosion et d'altération, bah, d'abord, ça va être le climat. Donc, si on est dans un climat chaud et humide, on va regarder ici donc des bilans, ce sont des bilans relatifs, hein, ce n'est pas quantifié. Donc, ici, vous avez à votre gauche l'altération des silicates, l'enfouissement de la matière organique provenant donc le transfert de la biosphère, donc là, qui sont les processus qui vont piéger du carbone, et puis à l'opposé, l'oxydation sulfurique, donc l'altération des carbonates par l'acide sulfurique, et l'oxydation des sols, en fait, qui correspond à l'oxydation de la matière organique pétrologique. Donc, dans les systèmes chauds et humides, bah, les processus d'altération sont très efficaces. Donc, on a des effets, c'est à peu près le système himalayen, donc tous les effets sont renforcés, mais globalement, c'est l'enfouissement de la matière organique biologique. Qui est dominante. Si on va maintenant dans un climat froid, eh bien, les flux vont être beaucoup plus faibles et donc l'altération des silicates va être restreinte. L'enfouissement de la matière organique va être aussi restreint tout simplement parce qu'il y a aussi moins de production primaire dans ces environnements-là. Donc il y a moins de matière organique biologique qui est produite. Et par contre, les deux autres processus, eux, l'oxydation sulfurique et l'oxydation la matière organique pétrologique, eux, sont relativement élevés. Donc, dans un environnement froid, eh bien, on peut avoir plutôt un système qui va favoriser la libération du carbone. Donc, ça, c'est une première comparaison. Si on prend les systèmes actuels, bah, climat chaud et humide, bah, c'est l'Himalaya, les Andes centrales avec le bassin de l'Amazone. Et les climats froids, bah, on est plutôt dans les Alpes. Alors, pas très très froid, mais pas non plus des conditions tropicales, et les Andes du Sud, donc où là, ces deux chaînes-là pourraient produire plus de carbone qu'elles n'en piègent. Et puis l'autre facteur, c'est la nature des roches, dont on a déjà parlé un petit peu, en fonction des types de roches qui vont être à l'affleurement. Bah, quand vous avez des roches sédimentaires, on va avoir une dominante de carbonate, donc ce sont les processus liés aux carbonates qui vont dominer. donc en particulier ici l'altération par l'acide sulfurique des carbonates, l'oxydation de la matière organique pétrologique et aussi dans les roches sédimentaires. Donc là, ça serait si on a une chaîne entre guillemets jeune, où il n'y a que de la couverture sédimentaire qui est à la surface qui se peut faire éroder. Et quand on va avoir une chaîne plus mature, on va commencer à faire apparaître, exhumer des silicates qui vont se retrouver à la surface, donc des roches endogènes. Et là, comme on a des roches endogènes, on n'a plus d'altération de carbonate. Les carbonates ont déjà disparu. Donc ce qui va dominer, c'est l'altération des silicates et puis le processus de piégeage de la matière organique qui, là, est indépendant de la nature des roches qui sont altérées. Donc là, finalement, ça veut dire que les conditions les plus favorables pour qu'une chaîne de montagne soit un puits à carbone, c'est une chaîne de montagne dans un climat chaud et humide et suffisamment mature pour qu'on ait beaucoup de roches endogènes à l'affleurement. Donc c'est exactement le cas de l'Himalaya, c'est aussi exactement le cas des Andes centrales avec le bassin de l'Amazone. Donc on est actuellement dans un contexte spécifique qui est lié à la position des chaînes de montagne dans leur paléogéographie, qui est très favorable finalement à ce que la chaîne de montagne puisse avoir une incidence sur le cycle du carbone en étant plutôt un puits à carbone. Et si on va plus loin, si on prend la chaîne hercynienne, la chaîne hercynienne c'est exactement le même système puisque les reconstitutions paléogéographiques de la chaîne hercynienne montrent que la chaîne hercynienne a été plutôt en conditions équatoriales, donc c'est-à-dire dans un environnement chaud et humide, donc le plus favorable pour que les puits à carbone soient très efficaces. Donc là, ça vous montre aussi que il n'y a pas nécessairement de systématique. C'est pas une chaîne de montagne. Les chaînes de montagne sont des puits à carbone. Non, les chaînes de montagne sont des puits à carbone dans certains cas quand elles sont dans des conditions paléogéographiques particulières en fonction de la nature des roches qui sont à l'affleurement. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire que toutes les chaînes de montagne ne vont pas nécessairement être des puits à carbone. Alors là, je vous ai uniquement parlé des processus liés à l'érosion. Il y a un autre processus qui commence à être étudié mais qui est très difficile à quantifier, qui a l'air d'être quantitativement très important. C'est ce qu'on pourrait appeler la respiration des chaînes de montagne. C'est ce qu'on voit au niveau des sources chaudes. Donc là, vous avez une source chaude au Népal avec un petit bouillonnement. Et à proximité de ces sources chaudes, vous avez des carbonates qui précipitent, forment des tufs. Donc ce sont des systèmes hydrothermaux. Et donc ces systèmes hydrothermaux, en fait, avec la précipitation de ces carbonates, montrent qu'on a un flux de carbone qui vient des profondeurs jusqu'en surface. Et si on analyse la composition de ces fluides, la composition isotopique en carbone, eh bien on se rend compte que ce n'est pas du carbone qui vient de l'atmosphère, qui est riche en carbone 14, toujours pareil, mais c'est du carbone qui vient des calcaires. Donc ce sont les calcaires qui sont en profondeur, qui vont subir des réactions métamorphiques de décarbonatation. On peut voir par exemple ici ou ici. Donc, et par ces réactions-là, vont libérer du carbone, du CO2, lors des réactions métamorphiques. Donc là, on aurait par ce métamorphisme un transfert du carbone stocké dans des roches métamorphiques, dans des carbonates, dans les sources chaudes, dans les systèmes hydrothermaux. Et là, on aurait une production, une respiration finalement d'une chaîne de montagne qui produirait une grande quantité de CO2. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Donc l'approche, c'est éventuellement de regarder soit la densité des sources chaudes, de mesurer toutes les sources chaudes. Alors pour savoir le flux, à nouveau, on regarde les isotopes du carbone pour voir quelle est la part du carbone qui vient de l'atmosphère. S'il vient de l'atmosphère et revient dans l'atmosphère, le bilan, il est nul. Pour savoir par rapport à ça, quel est le carbone qui vient du métamorphisme. Donc il y a pas mal de calculs qui ont été faits pour extrapoler ce qui est vu d'un point de vue local. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va quand même dépendre énormément de la nature des roches en profondeur, et ça c'est une différence majeure avec les quantifications que je vous ai montées tout à l'heure, où on regardait la nature des roches altérées telles qu'on les voit en surface, donc on les connaît, on sait ce qu'il y a. Là, on ne sait pas nécessairement ce qu'il y a en profondeur en termes de roches métamorphiques, pour être sûr que à différents endroits de la chaîne, on ait la même dynamique. Ça va dépendre aussi de la vigueur de la circulation hydrothermale, donc de la température qui peut régner dans la chaîne de montagne. Mais les estimations qui ont été proposées vers 2008 en particulier, il y a deux articles qui sont sortis, c'est entre 10 et 20 mégatonnes de carbone par an. Donc ça serait énorme. Ça veut dire que si on prend ça, si on prend tous les autres flux dont je vous ai parlé, eh bien l'Himalaya rejette du carbone. En bilan, l'Himalaya produit plus de carbone qu'elle n'en stocke. Donc ça nous a fait un peu peur quand ces choses-là sont arrivées. On dit mince. Alors, c'est comme je vous dis, il y a une énorme incertitude sur ces flux-là. Ils sont mal quantifiés. Il y a aussi un problème du devenir de ce carbone. C'est-à-dire que probablement une bonne partie de ce carbone va être très vite repiégée sous la forme de carbonate. C'est ce que je vous montrais précédemment. C'est, alors ça ne se voit pas nécessairement très bien, ces petits tufs-là qu'on voit souvent au niveau des zones hydrothermales. Dans les sources chaudes, il y a toujours des concrétions carbonatées qui se forment. Donc il y a quand même une bonne partie de ce carbone qui est tout de suite repiégée sous la forme de carbonate. Donc il n'a pas le temps de rentrer dans l'atmosphère. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle piste d'études qu'il ne faut pas négliger pour arriver à faire un bilan vraiment bien équilibré des processus. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont en cours là-dessus pour trouver une méthode fiable pour vraiment quantifier précisément le flux de carbone qui vient de ce processus métamorphique et pour vraiment pouvoir faire un bilan totalement équilibré. Donc là, on en est encore un petit peu là. Je ne peux pas vous dire de façon sûre et certaine que ce flux est de 10-20 mégatonnes. Je pense qu'il est surestimé, mais bon, il est encore très mal contraint. Donc là, tout ce que je viens de vous montrer, finalement, c'est des mesures que l'on fait sur les rivières actuelles, sur les sources chaudes actuelles. Donc ça nous montre le bilan de carbone de la chaîne telle qu'elle existe actuellement. Donc il y a une question importante, c'est de savoir quelle est la représentativité de ces flux tels qu'on peut les mesurer sur l'échelle de temps qui nous intéresse, qui est l'échelle de la dynamique de notre chaîne de montagne. Donc est-ce que finalement ce qu'on voit est représentatif? On sait que les processus d'érosion, ils ont des variabilités sur des échelles de temps qui peuvent être relativement courtes, ne serait-ce que les cycles glaciaires, interglaciaires, ou encore plus courts, la mousson, les périodes de mousson et de non-mousson. Les érosions ne sont pas du tout les mêmes. On a même aussi des processus simplement liés quand il y a des grands séismes, il y a beaucoup de glissements de terrain, donc les érosions vont être très différentes. Donc on sait que l'érosion varie beaucoup dans le temps. La question c'est est-ce que ce qu'on mesure finalement ça lisse ces effets-là et c'est représentatif, ou est-ce qu'il faudrait prendre en compte des variabilités plus importantes? Donc déjà, on va regarder des choses sur du très long terme, c'est-à-dire sur l'Himalaya, sur la convergence avant la collision. Avant la collision, donc l'Himalaya, bah, c'est une zone de subduction, c'est à peu près les Andes. Donc cette zone de subduction, elle est relativement importante. On voit en particulier une unité qui s'appelle le batholite du Trans-Himalaya, ou le batholite du Gangdès, qui est cette grande unité rose, qui est un granite calco-alcalin, donc typique de ce qui se forme dans une zone de subduction. Donc ce serait un petit peu un environnement de ce type-là, de façon schématique, avec un magmatisme très important. Donc on a un épisode magmatique très important avant l'épisode de collision. Si on regarde, on fait une synthèse de tous les âges qu'on peut retrouver dans ces roches calco-alcaliques, dans ces granites, avec des datations uranium-plomb, on peut regarder les fréquences de la mise en place de ces magmas, donc pour avoir un petit peu une histoire du magmatisme, de l'intensité du magmatisme. Alors le problème, c'est que plus on va aller dans un temps ancien, moins on aura de données, donc ça va écraser un petit peu les choses anciennes, mais au moins ça permet de repérer les périodes. Donc c'est pas l'intensité qui est importante, c'est vraiment la localisation des pics. Donc on a un pic alors qui est très récent, qui correspond à des petits volumes qu'on retrouve le long de la chaîne himalayenne. Et puis on a un pic très important proche de la collision vers 50 millions d'années, un autre à 100 et un autre alors qui n'est pas très bien contraint, mais il y a une phase magmatique vers 150-200 millions d'années. Et puis avec des périodes sans activité magmatique entre, du moins pour l'instant on n'a pas trouvé d'âge dans les irons. Alors ce qui est tentant, c'est que si on met ça en parallèle avec les évolutions de température, eh bien, en gros, on se rend compte que chacun des pics concorde avec un pic de température. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il n'y en a pas d'autres des pics de température. Alors, il y a peut-être celui-là, mais il est beaucoup moins net. Tous les pics de température correspondent à tous les pics d'âge, les pics d'activité volcanique. Donc, c'est très, très tentant de se dire que les pics de température que l'on voit depuis 200 millions d'années seraient au moins en partie contrôlés par des pics d'activité volcanique au niveau de cette grande zone de subduction au niveau de l'Himalaya. Donc là, pareil, il faut peut-être arriver à regarder dans le détail pourquoi cette subduction-là, finalement, aurait plus d'impact que, par exemple, les Andes actuellement. C'est-à-dire, si on part là-dessus, on dit, bah oui, mais maintenant, il y a les Andes, c'est équivalent, ça devrait avoir le même impact, donc on devrait avoir un pic correspondant aux Andes. Alors, est-ce que c'est lié à la nature de la lithosphère qui rentre en subduction, donc le flux de carbone qui rentre, aux caractéristiques du magmatisme qui font que dans cette subduction-là, il y a un transfert de carbone plus important qu'il peut y avoir dans les Andes? Est-ce que c'est lié à la vitesse, au flux? C'est pas encore connu, mais bon. Voilà, il y a une corrélation qui est intrigante entre cet épisode, entre les activités, les pics d'activité magmatique et la température. Donc ça, c'est avant la collision. Donc on est vraiment dans un autre système. L'érosion est beaucoup moins importante. En dehors, bon, même s'il y a quand même des processus érosifs de tous ces basaltes qui peut être un puits à carbone relativement important. Si on revient maintenant sur ce qui se passe pendant la collision, alors il y a peu d'études pour savoir comment ça évolue dans le temps. Il y a une étude qui vient de sortir, qui est sur un temps très court, qui a utilisé le séisme de Gorka. Le séisme de Gorka, c'est le grand séisme qu'il y a eu vers Katmandou, enfin les deux gros séismes qu'il y a eu vers Katmandou en 2015. Et L'intérêt, on va dire, de ce séisme, c'est que suite à ce séisme, il y a eu beaucoup de glissements de terrain, donc il y a eu une augmentation très importante du flux détritique et donc de l'érosion. Donc ça a été un moyen de voir l'impact du séisme de Gorka sur les flux de carbone et sur les bilans entre les sources, les puits, les différents facteurs qui sont impliqués dans le cycle du carbone lié à l'érosion. Donc voilà une partie des résultats. Donc le petit symbole de séisme est ici. Donc il y a une série de données qui avaient été obtenues en 2010, donc avant le séisme. Et puis il y a 3 ans de mesures après le séisme. Donc ici, si on regarde la charge sédimentaire, donc le flux détritique, on voit qu'effectivement, 1 an après le séisme, on a un flux détritique qui est très important. Donc ça, c'est assez cohérent. Mais par contre, si on regarde un certain nombre de flux de carbone, en particulier le flux de carbone lié à l'altération des silicates, ou ici le flux de carbone lié à l'altération par l'acide sulfurique des carbonates, eh ben, on voit quasiment pas de variation. Donc la conclusion de cet article, c'était de dire que sur la période climatique actuelle, qui est une période interglaciaire, finalement, ce qui est mesuré dans les rivières, le bilan de carbone qui est fait avec les différentes études sur les rivières, est assez représentatif de l'interglaciaire. C'est-à-dire, on lisse les effets éventuels liés à la mousson, liés au grand séisme, éventuellement à des typhons, à des événements catastrophiques. Donc tout ça, c'est lisse. Après, par contre, ce qui est clair, c'est que l'interglaciaire et le glaciaire ne doivent pas avoir le même fonctionnement. Parce qu'on n'a pas les mêmes températures, on n'a pas le même couvert végétal, on n'a pas le même niveau marin. Donc probablement que dans les périodes glaciaires, comme on voyait tout à l'heure, finalement on reviendrait dans une chaîne froide, donc peut-être dans l'interglaciaire, le puits est moins efficace, voire même la chaîne pourrait libérer un peu de carbone. Donc là, il y a sur l'interglaciaire en tout cas, donc sur on va dire le dernier million d'années, on a quelque chose qui est relativement à l'équilibre. Alors, si on regarde maintenant, si on lisse sur des temps un petit peu plus longs, ici je vous ai remis une courbe de variation du delta O18 en fonction du temps, donc qui montre cette. Donc là, on est sur depuis 15 millions d'années. Donc on a une accélération de la baisse du delta O18, donc qui indique que le climat est de plus en plus froid. Et si on met ça en parallèle avec des indicateurs d'altération, donc ici le rapport potassium-aluminium ou chlore-aluminium, on voit des variations qui vont aussi dans le cadre d'un climat de plus en plus aride, donc on est froid et aride. Donc tout ça en fait, ça va, si on prend le système climatique actuel de l'Himalaya, on voit aussi que c'est lié avec une baisse du détritisme, l'érosion est de plus en plus faible. En fait, c'est une diminution du régime de mousson. C'est-à-dire le régime de mousson devient de moins en moins actif depuis 15 millions d'années. Et ça, en fait, ça peut simplement être une question de rétrocontrôle. C'est-à-dire que pourquoi le régime de mousson devient moins actif? Simplement parce que la température baisse. La baisse de température étant une conséquence de l'érosion plus importante liée à la formation de l'Himalayenne, eh bien, il y a un rétrocontrôle qui se ferait, c'est-à-dire que comme la température baisse, l'érosion devient moins importante, donc l'Himalaya finalement va s'éroder moins vite. Donc il va y avoir éventuellement un équilibre, des rétrocontrôles qui vont se mettre en place et un équilibre qui va se mettre en place entre l'érosion de la chaîne de montagne et le climat. C'est-à-dire le climat va jouer sur l'érosion va jouer sur le climat jusqu'à arriver à un système à l'équilibre. Après, si un des systèmes varie, par exemple si l'érosion, si la dynamique himalayenne change, on va sortir de l'équilibre pour revenir dans une phase transitoire. Si le climat change, pareil, s'il y a un forçage climatique extérieur à l'Himalaya qui joue, eh bien l'équilibre serait coupé et il y aurait une nouvelle phase transitoire jusqu'à revenir à un état d'équilibre. Donc il y a vraiment des interactions qu'il faut prendre en compte. Finalement, ce n'est pas quelque chose de linéaire qui va dans un seul sens, c'est que les deux systèmes vont interagir entre eux. Alors si on essaye de reprendre un certain nombre de points sur le cycle du carbone géologique, donc ce qu'on va rajouter par rapport finalement à des choses assez simples, classiques, comme la subduction du carbone, la subduction du carbone, on reste dans le cycle, donc ça ne sort pas. Le volcanique, donc là c'est un transfert vers l'atmosphère. On a d'autres transferts vers l'atmosphère qui vont se produire dans les chaînes de montagne, en particulier la libération de carbone dans l'acide sulfurique. Donc ça c'est les bilans globaux qui ont été faits. L'oxydation du carbone pétrologique est aussi une source de carbone au niveau global. Et puis vous avez des flux, le flux de carbone lié, du carbone organique qui vient de la biosphère, qui va être quasi intégralement transféré sous forme de carbone enfoui, donc c'est de l'ordre de 170 mégatonnes de carbone par an, liées alors en particulier aussi aux chaînes de montagne, parce qu'on a un flux détritique très important, donc on a un débit important. Et puis, on a aussi ce flux lié à l'altération des silicates. Alors, j'ai mis à côté le flux lié à l'altération des carbonates, mais bon, son bilan à l'échelle géologique, il est nul. Et donc, ce flux lié à l'altération des silicates, qui est de 140 mégatonnes par an. Et donc, il y en a une moitié de ce flux qui va faire du pompage de carbone. Donc, je n'ai pas remis. Il faudrait mettre éventuellement ici qu'il y en a une partie qui est libérée et une partie qui est repiégée, mais le bilan net, c'est qu'il y a la moitié du flux qui est lié à du piégeage de carbone. Donc voilà, alors bon, il y a d'autres processus. Donc on arrive à des choses un petit peu plus complexes, et avec toujours la question de la part du métamorphisme dans ce bilan général. Est-ce que le métamorphisme est quelque chose qui va avoir une incidence significative? Mais bien évidemment, donc, ce qui est intéressant dans ce bilan-là, c'est que c'est-à-dire que ce n'est pas un bilan général qu'on va pouvoir reprendre sur toute l'histoire de la Terre. En fait, c'est un bilan qui va dépendre très fortement de la présence ou pas de chaînes de montagne et de la localisation des chaînes de montagne. Donc c'est pour ça, quelque part, ça veut dire que c'est difficile d'établir un bilan avec des flux qui soient un cycle du carbone, je dirais, global, qu'on peut réutiliser pour tout le phanérozoïque, parce que ces bilans et ces flux-là, ils vont dépendre de la présence ou pas de chaînes de montagne, de leur position. Et on peut aller même plus loin, c'est-à-dire si on regarde le nombre de dorsales, la présence de rifts, bah, ça va aussi modifier. Donc, en fait, le cycle du carbone va changer au cours du temps en fonction de l'activité géologique, de l'activité tectonique. Et ça, le test d'une team, bah, c'est d'essayer de le modéliser. Maintenant qu'on connaît ces processus-là, il y a différents calculs, modèles qui sont faits. Alors là, je vous en mets un qui s'appelle COPS, hein, c'est l'acronyme du logiciel qui fait ces calculs du carbone. Donc là, on prend en compte tous les processus qu'on connaît. Et puis, donc récemment, ils ont intégré un petit peu mieux les processus liés à l'érosion. Donc c'est sous forme, on va quantifier en fait des forçages. Donc là, vous avez deux forçages ici qui sont proposés. Il y a le forçage lié à l'acide sulfurique et le forçage lié, je ne sais plus lequel, sur les taux d'érosion, je crois. Donc, on voit comment ces forçages ont évolué au cours du temps. Donc, on prend en compte, là, vraiment, est-ce qu'il y a des chaînes de montagne, il n'y a pas des chaînes de montagne, est-ce qu'elles sont à l'équateur, est-ce qu'elles ne sont pas à l'équateur. Donc, pour essayer de quantifier un petit peu ces effets-là. Donc, on va pouvoir intégrer aussi les variations des taux d'érosion au cours du temps. Et donc, à partir de ces forçages-là, les auteurs de ce genre d'études vont faire des calculs, vont faire tourner des calculs pour essayer de reproduire ce qui sont les données, donc en la zone grisée ici, qui sont les reconstitutions de la pression de CO2 atmosphérique. Donc là, il y a deux modèles en pointillé, c'était l'ancien COPS. En bleu, c'est celui qui a été publié en 2019. C'est bien, mais c'est quand même pas fabuleux encore. On voit quand même les grandes tendances qui apparaissent. Alors, elles ont l'air d'être un petit peu anticipées. Souvent, les baisses sont un peu avant les pics. Les pics sont un petit peu décalés. Donc, on voit des grandes tendances, mais il y a probablement un problème de temps de réponse du système. C'est-à-dire que c'est aussi souvent le problème des approches numériques, c'est que le résultat, il atteint tout le temps. Donc, il manque peut-être, il y a un problème de temps de réponse de l'atmosphère, du climat à ces forçages-là. Et si on passe au CO2, alors là, c'est vraiment pas terrible. En particulier quand on est dans des temps très anciens. Alors, bon, a priori, les températures, on a une grosse incertitude, donc on peut faire passer plein de choses à l'intérieur. L'avantage, c'est que ça reste dans le gris. Donc, on est dans l'enveloppe. Alors là, malheureusement, c'est très bien contraint, donc ça marche pas. Mais bon, voilà, c'est pas encore parfait. Donc, la conclusion qu'il faut retenir de ça, c'est que ces processus-là, ils existent, donc il faut les prendre en compte. Mais il y a probablement d'autres choses qu'on n'a pas encore totalement bien compris, qui sont soit des processus, soit la façon dont ces processus jouent. Et en particulier, le temps nécessaire pour que ces processus soient efficaces, les échelles de temps, les échelles d'espace. C'est des choses qui commencent à être faites, c'est des calculs qui sont assez, assez complexes, donc ça évolue régulièrement, mais bon, on commence à faire des choses qui sont de plus en plus fines, même si ce n'est pas encore très emballant, mais on va dans la bonne direction. Et je voulais finir par un point important, c'est là que je vous ai montré tout ce côté la formation de la chaîne himalayenne via son érosion va avoir une grande incidence sur le climat, bah, le climat, il va se venger un petit peu. C'est-à-dire que lui-même va pouvoir aussi avoir une incidence forte. Alors, on en a parlé un petit peu quand on a parlé de la mousson. Et un processus très important qui va y avoir dans ces cadres-là, c'est que l'érosion contrôlée par le climat va avoir une incidence forte sur la dynamique orogénique. Ici, vous avez deux petits schémas qui synthétisent ça. Donc là, on a, je dirais, un schéma de fonctionnement d'une chaîne de montagne standard, à l'équilibre avec ces conditions d'érosion, donc qui est un prisme orogénique. Et dans ce prisme orogénique, on a des chevauchements qui sont actifs vers le front de la chaîne. Alors, tout simplement parce que au niveau des chevauchements, on a une grande quantité de matière qui va se retrouver soulevée, qui vont appuyer sur le chevauchement. Et si cette matière n'est pas érodée, eh bien le poids des roches au-dessus du chevauchement va faire que le chevauchement va plus pouvoir fonctionner. Pour pouvoir continuer à accommoder la convergence, ben, il y a un autre chevauchement qui va s'activer un petit peu au front. C'est le principe du prisme d'accrétion, donc du prisme orogénique. Donc là, dans un système à l'équilibre, on a un équilibre entre une érosion qui va, d'une certaine manière, caler, bloquer la quantité de matière que peut accommoder notre chevauchement. Mais si cette érosion est modifiée via le climat, si on passe dans un climat, par exemple, avec beaucoup plus de précipitations, eh bien le poids qui initialement était au-dessus des chevauchements et empêchait les chevauchements de fonctionner va en partie être éliminé. Et donc les chevauchements qui se propageaient bah, vont arrêter de fonctionner, et les chevauchements qui étaient arrêtés vont pouvoir être réactivés. C'est ce qu'on appelle des réactivations hors séquence. Ce qui fait que notre chaîne de montagne, qui était large et qui était en train de se propager dans le temps, eh ben, va devenir une chaîne étroite, où toute la déformation va être localisée sur une zone très très courte. Et ça, c'est des choses qu'on voit en Himalaya en particulier, peut-être aussi dans les Alpes, c'est qu'on a comme ça, des systèmes de chevauchement qui ont été actifs pendant une très grande période, qui sont réactivés tardivement et qui sont souvent corrélés à des grandes modifications climatiques. En particulier, il y a la mise en place des cycles glaciaires-interglaciaires vers 4 millions d'années, associé à une augmentation des taux d'érosion très importants. Eh bien, on voit que en corrélation avec ces épisodes-là, il y a plein de chevauchements qui étaient inactifs depuis plusieurs dizaines de millions d'années qui se réactivent à l'intérieur des chaînes, et que la déformation au front de la chaîne devient beaucoup plus faible. Donc voilà, le fait, c'est que la dynamique orogénique va effectivement peut avoir un impact sur le climat via sa modification du cycle du carbone, mais que le climat lui-même, sur des échelles de temps qui sont comparables, va pouvoir aussi influencer la dynamique orogénique. Donc on a toute une série de rétroactions, en fait, à long terme, qui peuvent se mettre en place entre la chaîne de montagne et le climat, qui fait que ce qui rend aussi un petit peu plus complexe la compréhension de ces interactions, mais qui aboutit, comme je disais, ce qui est important aussi, c'est de voir une certaine stabilité de ces processus-là. C'est-à-dire, tant que la tectonique est constante, que le climat est constant, on considère qu'au bout de quelques millions d'années, on va atteindre un système à l'équilibre, où le climat va plus changer, où la tectonique va plus changer, et qu'on va avoir une morphologie de la chaîne de montagne qui va rester la même, avec des flux continus, ce qui serait a priori ce qu'il y a depuis dans l'interglaciaire actuel, c'est-à-dire qu'on a vraiment un flux continu et à l'équilibre. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ces aspects, et puis j'attends vos questions avec appréhension. Oui.
Deux interrogations qui sont liées à la sulfurite dans l'altération des carbonates qui vient de l'altération de la pyrite.
Oui.
Alors la première, c'est pourquoi j'en ai jamais entendu parler.
Parce que c'est assez récent. Alors, c'est assez récent. Les premiers papiers qui le développent datent de 99, mais vraiment les papiers qui ont vraiment, les articles scientifiques qui ont vraiment développé ça, c'est 2014, je crois. Donc c'est des choses qui étaient envisagées. C'est-à-dire, on se doutait qu'il devait y avoir. Enfin, moi j'ai pas travaillé dessus. Les gens qui ont travaillé dessus se doutaient qu'il y avait cet effet-là, parce que effectivement, l'altération des carbonates par l'acide sulfurique n'a pas le même impact sur le bilan du carbone. Mais bon, ça pas trop le quantifier. On avait vu qu'il y a du SO4 de moins dans les rivières. On dit bon, c'est l'altération comment dire, des évaporites, donc entre guillemets, c'est pas très très grave. Et là, on a commencé à avoir des moyens finalement de quantifier ce processus-là, Et on s'est rendu compte que c'était pas négligeable. Mais c'est assez récent. Et alors, très honnêtement, le cycle du carbone qui est associé à cette altération sulfurique, il est assez complexe. Parce qu'il y a aussi du calcium qui est produit dans l'histoire. Donc on pourrait dire, bah, il y a du calcium qui est produit, donc ça va pomper le CO2. Et en fait, il n'a pas la même activité parce que c'est aussi en lien avec l'alcalinité. C'est-à-dire entre là, le calcium qui est libéré, le HCO3- qui est libéré, le SO4-. Donc tout ça, en fait, si on fait le bilan net, c'est quand même plutôt une libération de carbone. Mais ça va dépendre des échelles de temps sur lesquelles on observe les choses. Donc c'est assez récent qu'on s'intéresse à ces processus-là. Mais maintenant, ce qui est quand même bien établi dans la communauté, c'est que c'est important. Donc ils sont pris en compte de façon systématique maintenant.
Donc du coup, est-ce que nous, en tant que professeurs de SVT, c'est quelque chose qu'on doit quand même prendre en compte? Parce que dans le sens, c'est
Alors, je dirais, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez prendre en compte ou pas. Je pense qu'on peut, c'est des choses qu'on peut évoquer parce que, bah, donc, c'est des choses qui sont au premier ordre qu'on peut montrer, c'est-à-dire on peut montrer des altérations de pyrite, des pyrites qui se transforment en hématite. C'est des choses assez classiques. C'est des échantillons qui sont faciles à voir. C'est des pyrites qui deviennent rouilles, ont cette couleur rouille. Donc c'est un processus d'oxydation qui est classique. Donc après, peut-être à vous de trouver un moyen de le faire passer, mais je pense qu'on peut en parler. En tout cas, ce qui est important dans l'histoire, c'est que jusqu'à présent, dans la façon dont souvent on enseigne l'impact des chaînes de montagne sur le cycle du carbone, c'est qu'on dit toujours c'est un puits. C'est un puits à carbone. Oui, probablement c'est un puits en carbone, mais il y a quand même des processus qui vont libérer du carbone sur des échelles de temps qui sont équivalentes. Donc voilà, c'est, il faut rajouter ce petit bémol, et après, il n'y a probablement pas besoin d'aller dans le détail de ces processus-là, mais au moins, voilà, balancer un petit peu en disant, il n'y a pas que des puits, il y a aussi des sources de carbone dans ces processus, enfin dans les orogènes. Oui?
J'avais une question, pour rester toujours sur l'altération avec l'acide sulfurique. On a dit qu'en milieu froid, du coup, en climat froid, ici, on avait très peu d'altération des silicates et du coup, est-ce qu'il y a très peu d'altération des carbonates aussi?
Alors, l'altération des carbonates, elle est plus efficace en conditions froides. C'est ce qu'on voit, par exemple, les plus grands karsts du monde sont en Patagonie. C'est là que la dissolution des carbonates est la plus efficace. Alors après, c'est de la dissolution, entre guillemets, c'est les processus classiques de dissolution, donc c'est de la dissolution par l'acide carbonique. Donc au final, le bilan, même si on dissout beaucoup de carbonates, au final, le bilan, il est équilibré par la précipitation des carbonates.
S'il y a moins d'altération des silicates, du coup, est-ce qu'il n'y a pas moins d'acide sulfurique qui est...
Alors, ouais, donc parce que là, c'est vraiment des problèmes d'oxydation. Donc, c'est pas sur les silicates, c'est sur les pyrites. Donc, là, ces processus-là, en termes d'oxydation, sont un petit peu moins dépendants de la température que les processus d'altération chimique type hydrolyse, où là, l'impact de la température est extrêmement important. Là, c'est l'atmosphère, finalement, c'est le degré d'oxydation de l'atmosphère. Mais ça va dépendre de la disponibilité de cette pyrite, par exemple, dans les roches qui sont altérées. Ça, c'est à supposer qu'il y ait une source de soufre dans les sédiments qui sont altérés, enfin qui sont oxydés. Oui? Alors, pas vraiment, parce que justement, il est mal quantifié. Et on a du mal à savoir exactement ce qu'il en est. Donc pour l'instant, l'approche des modélisateurs, ça a été plutôt de se dire, on va pas le prendre en compte, on va le mettre dans le même paquet que le volcanisme, c'est-à-dire on va faire un flux volcanique et métamorphique, un flux endogène, on va mettre ça dans le même paquet, on va le contraindre par les pics d'activité volcanique qui, eux, sont bien déterminés. Donc on va prendre, voilà, là, il y a tant de volcans qui sont actifs à ce moment-là, il y a tant de basaltes qui sont produits, donc là, ça on peut assez bien quantifier, et on va tout mettre ça dans le même paquet. Le problème, voilà, c'est vraiment ce côté qu'on c'est un flux qui était négligé avant, et maintenant on se rend compte que c'est potentiellement un flux très important, mais il est difficile à intégrer dans les modèles parce qu'on a du mal à estimer comment il varie au cours du temps. Déjà, même sur les exemples actuels comme sur l'Himalaya, c'est très discuté. Les gens étaient très surpris de l'ampleur que ça a donné. Et il y a beaucoup de discussions pour savoir si l'estimation n'est pas... probablement, elle est surestimée, mais à quel niveau, on ne sait pas encore. Alors, ce qui est assez bizarre, moi, je passe trop travailler là, sur ces aspects-là, mais il y a deux papiers qui sont sortis en 2008 et depuis, il n'y a rien. Il n'y a eu aucune étude. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est trop complexe ou parce qu'il y a par hasard peu de gens qui s'y sont intéressés, mais depuis 2008, il y a eu deux articles qui sont sortis d'un seul coup et ça a été l'effervescence. Il y a eu plein d'articles de discussion derrière. Il n'y a pas de nouvelles. Sur l'Himalaya, en tout cas, il n'y a pas de nouvelles données qui sont sorties. Oui?
Moi, j'aurais une question sur la toute première diapo que vous avez passée, parce que je la trouve assez étonnante.
Toute première. Celle-là?
Celle-là, quand on se place au niveau du cambrien et de l'ordovicien et qu'on est la température, c'est à partir de quoi exactement qu'il y a 50 degrés?
Alors, il me semble que là, c'est la température atmosphérique, pas océanique, hein, c'est sûr. C'est la température atmosphérique, alors je pense qu'elle est...
De l'animal marin.
Oui, non, mais après, l'animal, après, c'est pas un transfert direct. Hein. Alors, ce qui est mesuré, en fait, avec les animaux marins, c'est qu'on va regarder le fractionnement avec l'eau de mer. Il faut connaître le delta O18 de l'eau de mer à cette époque-là. Donc là, je pense que les incertitudes, elles sont un petit peu plus grandes que ce qui est... Elles sont pas toutes reportées. Et après, c'est éventuellement transféré en température atmosphérique. Et à mon avis, vu les gammes, il faudrait que je vérifie, c'est probablement des températures atmosphériques à l'équateur. Mais faire bien chaud, voir 40 degrés dans le désert. Après, il faut voir comment ça marche sur les moyennes lissées sur plusieurs années ou sur millions d'années. C'est-à-dire qu'on va enlever les effets saisonniers, les effets journaliers. Non, c'est pas. Oui, voilà. De toute façon, il y a des variations entre le pôle et l'équateur. C'est à une latitude donnée. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais bon, de fait, les reconstitutions faites sur la Terre carbonifère, en particulier, montraient qu'on était dans un environnement beaucoup plus chaud qu'actuellement. Hein. Après, c'est toujours pareil. Hein. Il faisait chaud, mais les variations de température se font sur des échelles du million d'années ou de la dizaine de millions d'années. C'est pas très rapide, les changements de température. Oui ?
Je réfléchis par rapport au nouveau programme de spécialité où on a un peu tout ça assez clair. On fait le programme d'une certaine façon. Et finalement, vous avez bousculé quand même pas mal de choses.
Désolé.
Qui sont. De nécessité, enfin,
oui,
thématique,
bien sûr.
Ce qu'on enseigne aux élèves, on simplifie quand même parfois à l'extrême. Alors, est-ce qu'on peut quand même dire, monsieur, le pic de froid qu'on voit au Carbonifère et une glaciation qu'il y a à peu près à ce moment-là, est liée à la formation de la chaîne hercynienne et au puits de carbone organique ou pas
Ça paraît raisonnable. Voilà, donc
quelque chose qu'on peut dire.
On peut dire. Alors après, moi j'ai tendance à utiliser du conditionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas de certitude, mais la corrélation, les processus qui doivent se produire, le fait qu'il y ait tous ces bassins de charbon, la grande quantité de charbon qui va être stockée au niveau de la chaîne hercynienne, ça fait quand même beaucoup de choses pour dire avec bon niveau de confiance que ça doit être un facteur important pour expliquer ce refroidissement. Donc, je pense qu'on peut y aller. Mais après, voilà, c'est l'approche classique. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles on peut dire on a des certitudes. Il y a des choses où on est un peu dans la zone grise. Donc, effectivement, nous, en recherche, on va rester dans le côté gris. C'est vrai que vous, si vous restez dans le côté gris, ça risque d'être un peu dur à faire passer aux élèves si on passe longtemps. Oui, peut-être que, éventuellement, en regardant de loin et rapidement. On est obligé de donner un certain nombre de... Mais bon, c'est bien, voilà, de savoir un petit peu les limites de ce qu'on peut faire passer comme message. Hein.